Merci. Merci de m'avoir proposé de vous rejoindre dans cette table ronde un peu dernier moment, mais bon, je suis désolé si je suis un peu fatigué après la table ronde précédente. Je pense que le sujet, c'est un sujet sur lequel on connaît en réalité presque rien, enfin sur lequel la recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets en vérité, mais sur ce sujet-là, on est quand même particulièrement nul, aussi bien pour ce qui concerne, enfin d'ailleurs la recherche en sciences sociales en général, hein, je ne veux pas isoler l'économie par rapport à d'autres recherches, les théories dont on dispose pour réfléchir à la taxation optimale de l'héritage nous envoient de temps en temps à 95%, de temps en temps à des taux négatifs de subvention aux héritages, donc ça fait quand même un intervalle de confiance qui dépasse la ligne rouge de l'acceptable. Enfin, c'est vraiment très balbutiant. Et puis notre connaissance aussi empirique, historique de l'héritage, de son évolution, est vraiment très très limitée. Et bon, moi, j'ai essayé ces dernières années de travailler pour mieux comprendre ces évolutions. Et je suis parvenu à la conclusion, bon, je suis très très loin d'avoir tout compris, et ça porte essentiellement sur la France pour l'instant, il y a plein d'autres pays. Mais en tout cas, je suis parvenu à une conclusion, c'est que une des complications qu'on a face à notre compréhension de l'héritage, et aussi en particulier à l'imposition de l'héritage, mais ça va beaucoup plus, très au-delà de la question de la taxation, qui est qu'une des questions qui pose l'héritage. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à comprendre, c'est qu'on sort tout juste d'une période historique très particulière où l'héritage avait quasiment disparu, disons, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'on sort tout juste, on n'est toujours pas vraiment sorti, c'est-à-dire que c'est seulement à partir de nos générations, enfin excuse-moi André, mais disons à partir des générations nées dans les années 70, 80 et encore plus les générations nées dans les années 90, 2000, que l'héritage va reprendre l'importance qu'il avait, disons, avant les chocs du XXe siècle, quoi, pour résumer, et qu'il avait pour des générations, donc quand même assez anciennes, nées dans le XIXe siècle. Toutes les générations nées à partir de 1900 jusqu'aux générations nées dans les années 30, 40 et encore 50, 60 dans une certaine mesure, qui sont encore des générations de transition, mais en tout cas toutes les générations nées de 1900 aux années 1940, ce qui fait quand même du monde et ce qui prend encore beaucoup de place dans le paysage politique, intellectuel, enfin les générations nées dans les années 30, 40 et 50, si on les inclut, toutes ces générations-là, pour la première fois de l'histoire, en gros, ont vécu sans héritage, enfin ont vécu en n'héritant pas grand-chose, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose à hériter, parce que beaucoup avaient été soit détruits par les guerres, soit surtout on était dans un climat politique et économique où les patrimoines dans leur ensemble, en tout cas les patrimoines privés, avaient perdu énormément de leur valeur, parce qu'on était aussi dans un équilibre politique après la Seconde Guerre mondiale, ou toutes sortes de politiques. Bon, évidemment, quand vous avez des nationalisations, ça réduit l'héritage privé. Mais il y a d'autres exemples plus subtils, qui est que quand vous avez des blocages des loyers et que les patrimoines immobiliers dans les années 50, 60, 70 valent presque rien, hein, comme disait Jean Fourastier, le Français moyen en 1950 dépense plus pour sa dépense annuelle de tabac que pour son loyer. Bon, bah, c'était la réalité, mais c'était il y a longtemps. Mais pour ces générations-là, l'héritage immobilier ou financier, parce que c'est pas seulement l'immobilier, la bourse aussi était à des niveaux ridicules, en partie pour des facteurs politiques, il y avait eu quand même à la suite de la Deuxième Guerre mondiale tout un tas de réactions politiques pour museler, disons, le capital, pour dire vite, qui avait projeté les niveaux de valorisation des actifs immobiliers et financiers à des niveaux extrêmement faibles, enfin, qui faisaient que finalement, et par-dessus tout ça, les personnes âgées avaient particulièrement perdu pendant les guerres, parce que quand vous perdez votre patrimoine à 60 ans en 1940, vous avez encore moins de chances de vous relever que si vous avez 30 ans ou 40 ans. Et donc, les héritages dans les années 50, 60, 70, pour résumer, étaient presque nuls, quoi. C'est-à-dire que en masse, évidemment, il y avait toujours des gens qui héritaient beaucoup. Il y a toujours, dans n'importe quelle société, bon, des gens qui héritent beaucoup. Mais en masse, par rapport à ce que les gens des Trente Glorieuses gagnaient avec leur travail, ce qu'ils pouvaient espérer toucher en héritage, en moyenne, était tout simplement très faible. Et ce processus-là, moi, pendant longtemps, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on observait des masses d'héritage aussi élevées autour de 1900-1910, en pourcentage des revenus nationaux, en pourcentage de la masse de revenus du travail. Et comment se fait-il qu'on semblait, dans les années 50, 60, 70, bloqué à des niveaux aussi insignifiants? Et donc aussi à des niveaux de recettes fiscales insignifiantes, parce que si vous avez un flux d'héritage qui est de toute façon très faible par rapport au PIB, au revenu national, bon, bah, vous pouvez vous taxer ça à tous les taux que vous voulez, de toute façon, ce n'est pas très important, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Et je crois que j'ai enfin à peu près compris que en fait, c'était vraiment un dispositif, un processus, une réalité transitoire, et qu'en fait, on est en passe de revenir à des niveaux de transmission de patrimoine par succession, donation, similaire, peut-être pas tout à fait aussi élevé, mais presque aussi élevé que ceux qu'on avait il y a un siècle. Ce qui quand même change beaucoup la donne, je pense, dans les perceptions de l'héritage du patrimoine, mais va prendre encore beaucoup de temps à se faire sentir complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, à nouveau, hein, c'est pas pour jeter la pierre aux générations nées dans les années 30-40, mais je pense qu'elles peuvent tout simplement pas se rendre compte parce qu'elles ont fini... Elles ont tellement accumulé par elles-mêmes... Que, vous savez, Modigliani, quand il écrit sa théorie du cycle de vie dans les années 50, en réalité, il y croit pour de vrai, et quand il a son prix Nobel dans les années 80, il y croit encore, parce que lui, il a grandi comme ça, il a vraiment grandi dans un monde où il y avait pas de, où il y avait très peu d'héritage, et donc où on accumulait beaucoup à partir du revenu de son travail dans le cycle de vie. Donc chacun écrit par rapport à ce qu'il voit autour de lui, et il ne faut pas jeter la pierre à ces générations-là, mais je pense que ça a vraiment eu un impact profond sur les perceptions de la notion même d'accumulation de patrimoine. Et il va falloir du temps pour renverser ces perceptions, et je pense au fur et à mesure que les générations des années nées plus tard, dans les années 70, 80, 90, 2000, vont elles-mêmes de prendre de plus en plus de place et réaliser que pour elles, les patrimoines, d'après mes simulations, hein, qui peuvent se tromper sur certains points, enfin j'ai essayé de faire de mon mieux, pour les générations nées dans les années 90-2000, donc celles qui viennent de naître, l'héritage va reprendre par rapport au revenu du travail une importance qu'on n'avait pas vue depuis un siècle et demi, c'est-à-dire que un indicateur très simple d'inégalité que j'ai essayé de calculer sur deux siècles pour les différentes cohortes, c'est quand, pour une classe d'âge, pour une génération donnée, vous prenez tous les gens nés dans les années 2000 ou dans les années 90, quelle proportion de cette classe d'âge va hériter, en comptant toutes les donations, successions, plus qu'une vie au salaire minimum, une vie de travail au salaire minimum, qui représente grosso modo ce que va gagner les 50% de la population les plus pauvres en revenus du travail pendant toute leur vie, ce qui représente, voyez, si vous avez 12 000, 15 000 euros par an au salaire minimum pendant 60 ans avec votre retraite, ça va représenter, mettons, 800 000 euros. Bon, quelle proportion, et pour toutes les périodes, pour toutes les époques historiques, vous regardez ça, quelle proportion d'une classe d'âge va toucher, sans travailler, donc simplement par son héritage, plus que ce que gagne donc la moitié de la population simplement avec son travail. Bon, ce pourcentage, pour les générations des années 1930, 1940, 1950, 1960, avait atteint des niveaux ridicules. C'était moins de 1%. Vous aviez moins de 1% d'une génération qui gagnait, qui touchait plus que son héritage. Donc finalement, on s'en contre-moquait. Enfin, dire les débats sur l'héritage, bon, c'est toujours intéressant, mais enfin, c'est très théorique, quoi. Il n'y avait plus d'héritage. Pour les générations nées dans les années 2000, on est à 14% d'après mes simulations, donc avec une courbe qui remonte très très vite des générations nées dans les années 50-60 jusqu'aux générations dans les années 2000. Alors je peux me tromper exactement sur les chiffres exacts, il faut faire des prévisions, mais les forces de base qui font qu'on revient à ce niveau-là, je voudrais simplement dire qu'elles sont quelque part inévitables, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, il n'y a rien dans la structure. Certains s'imaginent parfois que la croissance économique moderne et se caractérise par le triomphe du capital humain par rapport au capital traditionnel, physique, financier. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est faux. C'est-à-dire que le partage du revenu national entre les revenus du travail, donc allant au capital humain, et les revenus allant au capital physique et financier, que ça prenne la forme de loyer, d'intérêt, de dividendes, eh bien, ce partage n'a pas changé au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a la même part du revenu national qui va en loyer, dividendes, intérêts, plus-value, enfin au capital physique et financier, aujourd'hui qu'il y a un siècle. La part allant au capital humain, au travail, n'a pas augmenté. Donc il n'y a aucune raison que l'héritage disparaisse au fur et à mesure du processus de développement économique et que le capital humain devienne progressivement plus important, que le travail, en un mot, devienne plus important. Il n'y a aucune raison naturelle que notre société devienne plus méritocratique, pour dire les choses rapidement. Il n'y a juste rien d'écrit dans la structure de la croissance moderne qui fait que le travail devrait progressivement... J'insiste sur ce point parce que je pense qu'on a fini par croire, cette parenthèse transitoire a duré tellement longtemps qu'on a fini par s'imaginer qu'il y avait dans le processus même de développement économique, de croissance, des forces puissante qui faisait que certaines rationalités technologiques, méritocratiques, faisaient que les cadres méritants allaient l'emporter naturellement sur les actionnaires bedonnants et héritiers. Enfin, qu'il y avait quelque chose de naturel dans ce processus. Mais il n'y a juste rien dans les lois économiques naturelles qui fait ça. Et je crois qu'on ne l'a pas... ça peut paraître trivial dit comme ça. Je pense qu'en fait, on ne l'a pas encore réalisé complètement ce qu'était une société où les patrimoines et l'héritage reprenaient toute leur importance. Donc peut-être pour conclure, pour donner un exemple très concret de ce que ça signifie, ça signifie qu'en fait, la situation actuelle, par exemple, sur les patrimoines immobiliers où, en gros, quelqu'un qui n'a que son salaire est à peu près contraint de rester locataire toute sa vie, enfin, en tout cas, s'il habite dans une grande ville. Cette situation, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est une situation normale, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à la situation antérieure comme ça, comme par magie. C'est une situation d'équilibre normal où, si vous n'avez pas d'héritage, vous êtes locataire toute votre vie et vous payez des loyers à des enfants d'héritiers. C'est comme ça. C'est la vie est triste, elle est moche. Enfin, mais disons, s'il n'y a pas de politique, en tout cas forte, qui contrecarre ça, parce qu'évidemment, il y a des solutions, l'équilibre, il est de cette nature. Et je crois que vraiment, on s'en est pas encore complètement imprégné. On continue de faire comme si... Bon, on finit par s'en rendre compte un petit peu, mais on continue de faire comme si... Ça allait s'arranger, quoi. Il y a quelque chose d'anormal, là, les prix de l'immobilier, ça va baisser, ça va revenir, on va revenir aux années 60, 70. Bon, peut-être que ça va baisser un petit peu, hein. Moi je ne suis pas devin, mais on ne reviendra pas naturellement comme ça à la situation des années 50-60, où comme disait Fourastier, on dépense moins pour son loyer que pour son tabac. Non, l'héritage, durablement, va avoir une importance déterminante, et concrètement, les personnes qui n'auront que leur travail... seront en difficulté pour leur vie en général. Donc, d'un point de vue de la politique fiscale, évidemment, ça a des conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il faut massacrer fiscalement l'héritage. Je pense que quand on regarde la conséquence fiscale en termes de politique publique, il faut vraiment avoir une vision globale de la fiscalité. La fiscalité des patrimoines et du capital prend beaucoup d'autres formes que la taxation des héritages. La taxe foncière est une façon de taxer les patrimoines, mais tout au long de la vie, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, enfin toutes les formes de taxation sur les patrimoines, les revenus qui en sont issus, réduisent à leur façon la valeur sur toute la vie de l'héritage qui a été reçu. Et il y a plein de bonnes raisons pour ne pas tout faire payer, entre guillemets, au moment de la succession, parce que d'abord, ça peut être un moment triste, après tout, donc c'est pas forcément le moment de tout faire payer. Il y a des problèmes de liquidité, c'est-à-dire devoir vendre un patrimoine. Et puis, il y a aussi une incertitude fondamentale sur la valeur que va avoir ce patrimoine tout au long de la vie. C'est-à-dire que, oui, quelqu'un qui a reçu 100 000 francs en un appartement à Paris dans les années 70, bon, personne ne savait à ce moment-là que ça vaudrait 2 millions d'euros et qu'il économiserait l'équivalent de 3 SMIC par mois de loyer 40 ans plus tard. Personne ne le savait à ce moment-là. Donc taxer massivement cet héritage à ce moment-là, ça aurait juste été bête parce qu'on ne connaît pas en vérité la valeur économique de cet héritage à ce moment-là. Donc c'est pour ça que les taxations du flux, enfin, taxation annuelle, soit à travers des taxes foncières, des impôts sur la fortune, des taxations sur les revenus du patrimoine, sont quand même beaucoup plus intelligentes, en règle générale, que taxer uniquement la transmission. Alors, il faut aussi taxer, sans doute, la transmission du stock. Mais, enfin, en tout cas, pour traiter de cette question, je pense qu'on ne peut pas...
marxiste que Bakounine.
Très bien, très bien.
Marx disait, vous taxez le reste, l'héritage tombera.
Je pense qu'il faut faire les deux. Moi, je réconcilie Marx et Bakounine, tu vois. Je pense qu'il faut... Impossible.
Je vais essayer, ça peut marcher.
Non, mais je pense qu'il faut faire les deux. Attends, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas taxer du tout les successions. Je suis juste en train de dire qu'aucun pays n'a taxé très massivement toutes les successions à un moment donné du temps. Les gens comprennent qu'on doit payer une taxe foncière chaque année quand on a hérité d'un bien immobilier, y compris quand ils n'acceptent les mêmes gens qui n'accepteraient pas qu'on taxe fortement la transmission d'un appartement à 100 000 euros. Alors qu'ils comprennent qu'ils vont payer une taxe foncière sur l'appartement qu'ils ont reçu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte ? Non, si, ils s'en rendent compte. Simplement, ils trouvent ça plus logique d'une certaine façon qu'on leur fasse payer au fil de l'eau la valeur économique de ce qu'ils ont hérité. Alors que tout leur faire payer d'un coup, ce qui les oblige à vendre le truc tout de suite, ça les met de mauvaise humeur. Donc il n'y a pas de raison de...
C'est bon pour le marché des plus.
Non, mais il faut le faire un peu. Mais enfin, je pense que, de toute façon, la réalité des systèmes fiscaux modernes, c'est que si on prend l'imposition du patrimoine dans son ensemble, toutes les formes d'imposition du patrimoine, c'est assez important. Ça peut représenter pratiquement 10 points de PIB dans un pays comme la France, 8-9 points si on additionne toutes les formes d'imposition du patrimoine. L'imposition des successions dans tout ça, ça n'a jamais été plus de 1 point de PIB. Donc, bon, si on veut traiter de la question de l'imposition du capital en général, on en est bien obligé de regarder l'ensemble. C'est-à-dire se focaliser sur le 1 point, ça ne va pas permettre, je pense, de réfléchir bien à la question des 10 points et de comment il faut les structurer. Voilà.
Donc, merci encore pour vos interventions et d'avoir accepté de participer à cette conférence. Donc maintenant, s'il y a des questions du public, donc aux intervenants ou des remarques, le micro est à vous.
Oui, ce serait juste pour avoir une confirmation sur... On dit souvent qu'aux États-Unis, le système des fondations permet une redistribution assez importante du patrimoine. Est-ce que c'est marginal ou est-ce qu'effectivement, ça... C'est un rôle assez important.
Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire, du point de vue des musées ou des universités qui reçoivent, ce n'est pas négligeable. Du point de vue de ceux qui donnent, c'est quand même assez négligeable. C'est-à-dire que c'est toujours moins de 5% du volume total des transmissions de patrimoine privé. Donc la légende de Bill Gates qui donne les trois quarts de sa fortune à sa fondation, bon, c'est du point de vue macro, ce n'est pas vrai. Les gens ne donnent pas comme ça. Les gens, non. C'est juste pas vrai, quoi. Mais il reste que même si c'est que 5%, bon, pour ceux qui reçoivent, les musées, les universités, c'est quand même vachement mieux que 0%, quand même. Ce qui est à peu près le cas en France. C'est toujours ça de prix, quoi.
Bah 5%, ça serait un doublement des droits de succession, en fait. Parce que aujourd'hui, les droits de succession correspondent à 5%, donc si on met 5% de plus, ça doublerait.
Oui, c'est l'intervention de M. Pitetti qui me fait penser à cette question. Est-ce que finalement, là aussi, en matière de politique, de taxation, d'héritage, etc., ou de la donation, on n'est pas dans un phénomène aussi transitoire, parce que les générations qui vont transmettre sont des générations qui ont accumulé, parce qu'elles ont travaillé souvent plus tôt, que ça a été la période de croissance, etc., ascenseur social et tout et tout. À partir du moment où ce n'est plus tout à fait le cas des générations qui hériteront de nous, je parle de moi, puisque j'ai l'âge déjà d'être à la retraite, et où en plus on a favorisé des possibilités de transmettre pendant que les enfants sont encore jeunes, que du coup cette transmission ne va pas forcément s'accumuler sous forme d'un bien qu'ils transmettront eux-mêmes mais qu'ils vont peut-être consommer en partie pour compenser des baisses de revenus par rapport à ce qu'ils ont connu de la part de leurs parents, hein, par exemple, est-ce que finalement la question se posera de la même façon qu'aujourd'hui quand ces mêmes enfants, eux, auront à transmettre à leurs propres enfants. Donc, autrement dit, on est peut-être dans un truc provisoire. Puis une deuxième chose, c'est un sentiment alors un peu personnel, une remarque que j'ai comme ça. Je pose aussi la question de l'effet de l'héritage sur l'autonomie d'une génération par rapport à la génération précédente. Je ne parle pas là de l'autonomie financière. Effectivement, si on donne en cours de vie, pendant qu'ils sont encore jeunes, à des jeunes, ça leur permet d'être plus autonomes financièrement. Donc, ce n'est pas ça dont je parle. Il y a d'autres moyens, par exemple le salaire étudiant qui permet de rendre autonome. Je parle du fait qu'en principe, une nouvelle génération est appelée à secouer le cocotier. Bon, par rapport à la génération précédente, sinon mettre en œuvre, parce qu'elle n'a peut-être pas ni la capacité ni le pouvoir de le faire, des modifications, des changements de paradigme, au moins de les réclamer. Quand on est dans une situation où finalement on a besoin de la transmission, soit en cours de vie, soit de l'héritage de la société précédente, je me demande si on ne maintient pas une sorte de lien qui... contribue, c'est pas la seule raison, mais contribue à entraver cette capacité à secouer le cocotier qui, moi, me semble un petit peu gênant, d'ailleurs, dans la situation de la génération d'aujourd'hui, quoi. Voilà.
Oui, alors, pour répondre à votre question, pour le moment, on hérite à 50 ans. Donc, comme avait dit une fois un étudiant, la vie est finie. Non, j'avais dit la vie est faite. Donc là, ils vont pas... C'est trop tard, si vous voulez, pour avoir des projets. Donc l'idée, c'est qu'il faut recevoir plus tôt pour avoir des projets immobiliers, familiaux et autres. Donc à 50 ans, si vous voulez, qu'est-ce que vous faisiez du patrimoine? C'est trop tard. Pour répondre à votre première question, est-ce qu'on va consommer, pas consommer, tout ça, on reçoit trop tard. Ma foi, les enfants qui reçoivent une donation précoce, alors là, on s'aperçoit que c'est vraiment un pied à l'étrier à l'acquisition par soi-même d'un logement. Ça, les enquêtes patrimoine INSEE 2004, on les données rétrospectives, on le voit. Ça aide aussi, mais j'ai été trop rapide, à la création d'entreprises. Par exemple, la création d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui joue justement? C'est uniquement être donataire, avoir reçu une donation, et là, vous passez d'une probabilité de 6,5 à 9,3. Donc, ça augmente vraiment, et donc vous créez plus facilement des jeunes entrepreneurs, même si ce n'est pas la seule variable qui joue, hein, le fait d'être un diplômé de grande école joue aussi, et les jeunes entrepreneurs embauchent plutôt des jeunes. Donc, vous allez avoir un véritable passage symbolique du témoin d'une génération à l'autre, ce qui était le problème que vous posiez. C'est-à-dire qu'en fait, la donation aussi, elle est utilisée mieux pour que la nouvelle génération acquiert une certaine autonomie sans secouer forcément le cocotier. D'accord ? Là-dessus ? Voilà. Alors, l'autre aspect des choses que vous avez, que vous dites, ça, c'est Mauss, hein, c'est assez connu, qui est l'ambivalence du don. Hein. L'ambivalence du don, c'est quand je donne, je vous donne quelque chose, c'est un rapport de partage, de solidarité, mais c'est aussi un rapport de domination, de violence, vous devenez mon obligé. Et ça se passe aussi entre parents et enfants.
À nouveau, il y a un moment où le quantitatif devient qualitatif. C'est-à-dire que tant que c'est des petits dons, bon, c'est moins violent. Quand ça détermine une vie entière, bon, ça, je pense que ça a des impacts sur les comportements, alors que ce soit le manque d'autonomie, manque de rébellion des enfants, mais ça a des impacts sur plein d'autres comportements. Enfin, les comportements de qui se marie avec qui. Enfin, il suffit d'ouvrir n'importe quel roman du 19e siècle pour se rendre compte que les impacts peuvent être tout à fait déterminants. C'est-à-dire que quand c'est vraiment toute votre vie qui est en cause dans cette dimension. Enfin, je crois qu'on a oublié ce que ça pouvait être, un monde où l'héritage était vraiment important. C'est-à-dire, là, on raisonne quand même un petit moment dans un monde où c'est un petit appoint quoi, par rapport au revenu du travail, un petit complément. Ça change radicalement les choses. Et la transition, pour répondre à la première partie de votre question sur la transition vers cet autre monde, prendra effectivement très longtemps. Vous avez raison que on est encore transitoire parce que les gens qui vont... À la limite, la vraie transition, ce serait plutôt quand les générations nées dans les années 90-2000 vont elles-mêmes transmettre. Donc tout ça, ça prend vraiment du temps. C'est des évolutions de très long terme, les structures de patrimoine et d'héritage. Et donc on finit par voir des phases transitoires comme des choses permanentes. La seule chose qui est claire, je pense, c'est que si on a... Dans un monde où les taux de croissance sont plutôt faibles par rapport au taux de reproduction du patrimoine, au taux de rendement du patrimoine, donc à partir du moment où vous avez des taux de croissance qui sont plutôt faibles, le patrimoine, inévitablement, le patrimoine qui vient du passé, donc en particulier les héritages, prennent une importance déterminante. Vous voyez, mécaniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a que des phénomènes de croissance très élevés, soit de croissance économique, soit de croissance démographique. Et évidemment, si vous chacun a 10 enfants, bon, l'héritage n'a aucune importance. Quoi, ce que vous disiez tout par 10, bon, c'est comme si vous avez une croissance économique de 10% par an. Bon, ça, qu'importe ce qui a été accumulé dans le passé par vos parents. Par contre, dans un monde où la croissance devient faible, 1%, 2%, enfin moins que le taux de reproduction interne des patrimoines, inévitablement, 50 ans plus tard, par la loi des intérêts cumulés, fait que vous vous retrouvez dans un monde où les héritages dominent la situation dans des proportions dont on n'a pas idée.
Sauf s'ils sont taxés.
Sauf s'ils sont taxés en général.
Et, donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont de moins en moins taxés partout. Hein, je ne sais pas quel âge a Cameron, mais il est jeune, et il bouge pour qu'il y ait de moins en moins d'héritages taxés. Et tout le monde est d'accord. Là, moi, ce que j'essaie, c'est qu'on va dans l'autre sens, et si on revient à les taux d'imposition de l'héritage comme en Grande-Bretagne, 2,5%, 3%, ça changera pas mal de choses. Hein.
Mais il y avait une question
Bonjour.
Du monsieur là-dedans.
Je profite d'avoir le micro pour intervenir. J'avais deux questions qui, en fait, je pense, se rapprochent. Et je voudrais rebondir sur ce qu'André Masson venait d'évoquer, sur l'idée qu'il faudrait qu'accélérer la mobilité du capital entre les générations serait bénéfique, donc vous venez de l'évoquer. Je voudrais savoir quels seraient en fait les mécanismes incitatifs à accélérer les héritages, le moment où on hérite. Et également, donc, la deuxième question, c'est par rapport à la taxation du capital ou à la taxation du travail. Dans le débat précédent, Alain Tranois évoquait l'idée que la transmission du capital était un vecteur de croissance économique. Donc c'était un argument qui allait un petit peu contre l'idée de la taxation des héritages, ce que j'ai cru comprendre. Je voulais donc savoir ce qu'il en était là-dessus, sur l'état de la connaissance, sur l'impact de l'héritage sur la croissance économique, et également poser la question sur le fait que, mettre en balance le fait que si l'État taxe, l'État peut également par la suite réinvestir dans le bien public qui lui-même est un facteur de croissance et qui en fait le bien public comme un don pour les générations futures. Donc savoir qu'est-ce qu'on pouvait en penser, en fait, par rapport à ça. Merci.
peut-être sur taxation et croissance économique rapidement. Bon, la taxation, c'est jamais super hein, pour quoi que ce soit. D'ailleurs, hein, c'est toujours mieux d'avoir zéro taxe du point de vue de tout, de la croissance économique, de l'offre de travail, de la consommation. Bon, sauf que, voilà, quand on considère que par ailleurs, il y a des infrastructures publiques qui sont utiles, l'école qui sont utiles, des retraites, un système de santé, etc. Mais dans l'absolu, évidemment, c'est toujours un peu embêtant d'avoir plus de taxes. Maintenant, il n'y a aucune raison théorique, empirique, de supposer que des taxes sur l'héritage ou le capital ont des effets plus nocifs en général que des taxes sur le travail. De toute façon, vous êtes obligé de taxer quelque chose. Hein. Il faut bien. Parfois, on s'invente quand même la possibilité d'impôts qui taxent personne. Bon, mais sauf que ça n'existe pas, quoi. Enfin. Par exemple, là, il y a des idées géniales sur la TVA sociale, la taxation de la consommation, mais sauf que la consommation, pour finir, on la consomme soit à partir du revenu de son travail, soit à partir du revenu de son capital, donc de facto, on taxe le revenu du travail ou le revenu du capital. Enfin, de toute façon, toutes les sources de richesse viennent du travail et du capital, pour produire des biens et services, donc forcément, la taxation, elle finira toujours par retomber sur le travail ou sur le capital. Et il n'y a aucune raison théorique pour que la taxation sur le capital et l'héritage, donc là je suis en désaccord avec ce que disait Alain Tranois tout à l'heure, désolé il n'est pas là, j'ai pas eu le temps de lui redire tout à l'heure, mais si un modèle théorique conclut que c'est toujours mieux de taxer le travail plutôt que de taxer le capital, c'est qu'il y a quelque chose de foireux dans le modèle, enfin, c'est qu'il y a quelque chose, disons que c'est que c'est construit dans les hypothèses quelque part, tu vois, il n'y a pas de raison, c'est mauvais dans les deux cas. Hein, vous taxez le travail, bah forcément, toujours égal par ailleurs, vous travaillez plutôt un peu moins, vous accumulez moins de capital humain, c'est normal. Pareil pour le travail. Donc, enfin, dans les deux cas, c'est pas super, mais on n'a pas le choix, et il n'y a pas de raison que ce soit pire dans un cas que dans l'autre, en général. C'est une question, après, il faut...
Oui, moi, j'ai pas exactement compris ces histoires du fait que le capital était transmis, alors que le capital humain de Thomas Piketty disparaissait avec lui. Enfin, si, ça, je comprends. Et je vois pas pourquoi ça crée des problèmes, vraiment. Non, sur les questions posées, là, d'abord, bon, 1064, James Mill, c'est pas n'importe qui. Ils attaquent à mort sur l'héritage. Hein, c'est important à l'époque. Alors, je veux bien qu'il n'a pas été écouté et tout, mais il y a une toute tradition britannique, y compris pendant les Trente Glorieuses, qui est sur l'héritage et qui veut faire des choses sur l'héritage. Et l'histoire de Mill, justement, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va se servir du produit de l'héritage pour l'affecter, justement, dans ce qu'on appelle un héritage social, pour les crèches, pour l'éducation, pour les jeunes entrepreneurs, etc. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait. Alors, moi, justement, quand je disais que comment on peut faire pour augmenter les donations, même si c'est un phénomène de riches, effectivement, c'est tout simplement les rendre plus avantageuses fiscalement par rapport aux héritages, et on sait que ça marche. Ça marche historiquement, les donations ont augmenté chaque fois qu'on leur donnait un avantage fiscal comparatif par rapport à l'héritage, et ça marche aussi quand on regarde économétriquement, comme ça marche d'ailleurs aux États-Unis. Donc, moi, l'idée, c'est que je ne prends pas aux riches, mais je prends aux riches si, en fait, ils n'ont pas voulu être altruistes familialement en faisant une donation ou socialement en faisant des dons caritatifs. Donc j'essaye de rendre la chose morale. Mais ce que moi le Thomas, donc, lui avait vraiment en tête sa courbe en nu, là, donc on retourne à la France balsacienne, ça, bon, c'est peut-être un peu forcé, il faut voir. Mais moi, ce que j'ai de ma longue expérience, des arguments échangés et tout, même si la raison la donne a changé, il faut s'en servir, c'est que tout simplement, les arguments économiques ne suffiront pas. Il faut des arguments moraux liés à la famille et il faut effectivement jouer sur l'état actuel qui est très différent d'il y a 30 ans et sur la montée des plus-values, du patrimoine hérité et tout, qui justifie une taxation. Le problème, c'est que pour le moment, on assiste au contraire. Sauf peut-être en France, où Sarkozy n'a fait que faire ce qui se passe dans d'autres pays. Mais l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, la Suède, il n'y en a plus. C'est un impôt qui disparaît. J'aimerais quand même que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'on fait d'un impôt qui disparaît au moment même où il devrait être plus important.
Une question qui vient un peu du livre d'André Masson, justement, c'est de savoir si toutes les analyses qu'on a eues sur l'héritage tiennent compte aussi de la place de l'État social, de toute la redistribution. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la montée de cette fonction de l'État et peut-être le côté, bon, l'héritage, c'est dans la famille, c'est autre chose.
Ah oui, non, là, je ne vais pas parler de mon livre, là, c'est autre chose. Mais effectivement, vous avez des approches très différentes sur le fait que vous trouvez l'héritage comme une affaire privée et tout. Mais il y avait un peu ce que dit Thomas, c'est-à-dire qu'il y avait le rêve que finalement l'héritage allait devenir quelque chose de secondaire. Donc on n'aurait même plus le droit à en parler. C'est la vision marxiste, quoi. Alors que Bakounine dit que ce n'est pas vrai, c'est un pilier essentiel. Et d'un point de vue moral, choix de société, c'est très important. Ce qu'on fait sur l'héritage, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur le capital. Il faut bien regarder ce qu'on fait sur l'héritage. Dis-moi ce que tu fais sur l'héritage et je vais te dire qui tu es. Dis-moi ce que tu fais sur le capital, même la taxe foncière, ça ne prouve rien, beaucoup moins. Ce qu'on fait sur l'héritage, ça touche la famille, donc c'est un point essentiel. La famille n'est pas du tout tombée, mais vous avez des avis très contradictoires. Bon, là, on sort du débat, du genre de est-ce que vous pensez que la famille doit jouer un rôle important ou être remise à sa place, comme pense Chauvel ? Est-ce que vous pensez qu'il y a plutôt une substitution ou complémentarité entre l'action de l'État et de la famille ? Et là, selon les paradigmes, vous avez des visions très opposées. Certains, comme moi j'appelle égalité citoyenne ou sociodémocrate, disent qu'il faut limiter au maximum les fonctions de la famille et que l'État fera beaucoup mieux. Par exemple, mettons un RSA ou un RMI à 16 ans ou 18, à 18 ans ou à 16 ans même, parce que bon, l'entraide familiale, ça remplacera l'entraide familiale, sera parfait. Et d'autres, au contraire, qui disent que la famille intervient toujours en premier, qu'elle rend des services indispensables, que ce soit pour l'éducation des jeunes ou le support des personnes âgées, et l'État devant venir en support ou pas selon les variantes. Mais vous avez là des choix métaphysiques d'emblée pour savoir si vous croyez à la famille ou si vous n'y croyez pas.
Oui, j'ai le micro, je voulais poser une question en fait. Je suis assez convaincue par le fait qu'effectivement une donation plutôt ça peut être bénéfique pour la génération future, etc. Je veux bien croire aussi que en partie on n'a pas des donations suffisamment tôt pour des raisons soit fiscales, hein, pas suffisamment d'avantages fiscaux, soit plutôt historique, où la génération des années 40 se rend pas compte qu'effectivement la génération actuelle a plus de mal qu'elle, que eux ils ont un héritage à transmettre et qu'il faudrait peut-être qu'ils commencent à réfléchir sur comment le transmettre. Mais il y a un argument qui me semble manquer, qui est, il me semble, les gens qui sont actuellement capables de transmettre, donc qui sont à la retraite et qui ont un patrimoine, ont du mal à s'en dessaisir pour des raisons d'anticipation, enfin d'incertitude sur leur avenir, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont devoir payer eux-mêmes leur maison de retraite, par exemple, qu'ils vont peut-être vivre très vieux et vont avoir beaucoup de dépenses de santé, et qu'ils vont devoir y faire face tout seuls parce que leurs enfants n'auront pas les capacités d'y faire face pour eux. Donc il me semble, moi, qu'il y a un problème plus que fiscal ou historique, qui est, est-ce qu'il n'y a pas une grande incertitude sur combien de temps on va vivre, dans quelles conditions et quelles ressources, quelle épargne il faut garder jusqu'à la fin de sa vie, donc pour être sûr d'y faire face de manière individuelle. Et peut-être que pour faire sauter ce problème-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème collectif d'assurer à travers des soins de santé qui seraient financés publiquement, des maisons de retraite qui seraient financées publiquement, je ne sais pas. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce point-là.
C'est une question un peu difficile, mais qui est dans la plaque, malheureusement. Et la première chose, c'est qu'effectivement, le système que je propose, peu importe, mais d'accélérer la circulation du patrimoine, ne marche bien qu'effectivement, si les seniors, y compris riches, sont couverts pour leurs vieux jours, etc. Donc, à la limite, il faut se servir du revenu des impôts sur l'héritage ou d'autres choses pour garantir, y compris à ces vieux riches, suffisamment pour s'en sortir. Alors maintenant, mais là on sort un peu de ce débat, mais bien que ce soit lié, vous avez des produits qu'on pourrait mettre en place qui résolvent votre problème. Alors ce serait par exemple ce que j'appelle le VIP, un viager intermédiaire partiel. C'est-à-dire que souvent vous avez des parents âgés, je ne parle pas des très riches parce que les très riches en sortiront toujours, hein, mais plutôt dans les classes moyennes. Vous avez un patrimoine surtout illiquide, votre logement. Et vous avez des contraintes de liquidité pour vos vieux jours, et ce qu'on sait, c'est que vos enfants ne vont pas vous aider. Ils sont contraints par la liquidité, et le proverbe allemand marche très bien, un père s'occupe plus de 10 enfants que 10 enfants d'un père. Je parle financièrement, hein, les enfants aident autrement, mais pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? L'idée, le viager tombe en désuétude, vous allez vendre, vous avez deux enfants, vous vendez un tiers de votre logement en viager, pour toucher un bouquet, comme on dit, le capital de départ, et des rentes. Si vous vendez qu'un tiers, vous n'avez pas les problèmes familiaux de mise à feu et à sang parce que vous vendez en rente un capital qui est aux enfants. Et ce que vous pouvez faire, c'est que le bouquet ou les premières rentes, vous pouvez les verser aux enfants. C'est-à-dire que votre patrimoine a été rendu liquide et vous pouvez accélérer la transmission aux enfants, au rebours de la vocation du viager. Quand ça ne va plus, alors vous gardez les rentes pour vous et vous pouvez associer ça sans problème, comme les contrats d'assurance vie, à une assurance dépendance. Bon, voilà, je peux vous montrer, ça doit être intermédiaire, passer par des professionnels pour différentes raisons. Et je peux vous montrer des tas d'avantages de ce viager partiel. Ça fait que la personne va entretenir son bien parce qu'elle en garde encore les deux tiers. Et si vous voulez, l'idée, le framing effect, c'est que vous avez trois héritiers, chaque enfant pour un tiers et la banque pour un tiers si vous avez deux enfants. Oui. Vous avez un troisième co-héritier. Alors ça pose des tas de problèmes. Le problème le plus grave, c'est que les professionnels ne vont pas pouvoir se mettre sur le marché parce qu'ils supportent trop de risques.
Enfin, bon, on va prendre une dernière question avant de finir.
Pour les gens, efficacité économique. Quelle est la différence entre donner à une fondation caritative ou donner à l'État ? Finalement, c'est l'État qui peut, à la limite, contrôler par une assemblée, etc., répartir au mieux ce qui a été donné plutôt qu'une ONG, etc., dont on sait très bien que les dépenses, etc., ne sont pas toujours justifiées d'un point de vue démocratique, etc., comme c'est le cas de l'État. Donc pourquoi l'État ne serait pas en quelque sorte une sorte de fondation ?
Non, mais c'est une bonne remarque. Favoriser la donation aux fondations viendrait en plus d'une augmentation des droits de succession et aurait pour objectif d'assouvir le désir de puissance de certaines personnes qui pourraient ainsi mettre leur nom sur les bibliothèques d'université au lieu d'essayer de former une dynastie en se disant que ses arrière-petits-fils seront tout le temps à la tête de leur entreprise familiale, ce qui généralement est assez inefficace. Donc l'idée, c'est de prendre ce désir de puissance et l'utiliser de façon utile socialement. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il y a quand même une autre stratégie qui est de taxer. Tu vois, si c'est uniquement
le
désir de puissance, moi, je pense quand même pour justifier une politique de déduction pour les fondations, il faut une vision plus positive. Alors, après, je ne sais pas ce qui allait justifier, mais plus positive des fondations qui, en tant que telles, permettent d'avoir une diversité de financeurs dans le secteur de la culture, de l'art, de l'enseignement supérieur. Et quand on n'a qu'un seul financeur qui est l'État, ça ne garantit pas forcément tout ce qu'on souhaite. Non, je ne dis pas. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est un débat compliqué parce que des fois, les fondations sont détournées dans tous les sens. Mais en tout cas, il faut rentrer dans cette question, je crois, parce que si on est juste dans la justification du désir de puissance des gens, bon, il y a quand même une autre stratégie qui est de...
Mais on sait que ça ne marchera pas. On sait que ça ne marchera pas. Si on fait des taux d'imposition très élevés sur les héritages, ça va créer un clash. Et même Marx et Bakounine disent que, justement, le fait qu'on veuille se prolonger tout ça et laisser le désir de puissance est important. Donc moi, je pense que ce que dit Guillaume a une importance. Alors, le problème, soit financé privé-public, c'est de faire gober le fait qu'on va taxer fortement les héritages autrement. Au lieu de prendre aux riches, on leur dit on vous prend si vous ne faites pas, mais si vous faites vous-même, on vous laisse. C'est ça l'idée. Si vous dites non, l'État fera beaucoup mieux, on prend aux riches et on n'en parle plus, d'accord, moi je dis vous êtes partisan de l'égalité citoyenne, très bien, mais il y a d'autres paradigmes, et visiblement dans la société, celui-là n'est pas forcément dominant, et autrement on n'aura aucun problème, les taxations augmenteraient sur l'héritage. Sarkozy serait d'accord pour l'augmenter, il n'est pas tout à fait d'accord. Il a fait le contraire. Il a diminué la taxation sur les donations et surtout sur les héritages. Donc la loi TEPA, qu'est-ce qu'elle a fait ? En pratique, pour ce que je fais, elle a diminué l'avantage relatif de la donation. Parce qu'on a diminué encore plus la fiscalité sur l'héritage. Et donc quand il dit, moi je veux une France où il y a une mobilité de patrimoine, mais je ne veux pas que les patrimoines soient taxés à la mort, c'est contradictoire. S'il veut qu'il y ait une mobilité du capital, il faut avantager la donation par rapport à l'héritage. Mais permettre une porte de sortie sur cette volonté de puissance. Mais moi, je pense que cette volonté de puissance est importante. Et donc, seulement en France, il y a une grande réticence. Liberté de tester, on n'en veut pas. Ça, j'ai des expériences là-dessus. Je pense que hors enfant, on ne parle pas de l'effet Cendrillon, hors enfant, une liberté de tester, comme Gates ou Buffett, enfin, améliorée, c'est une bonne chose.
Bon. Ben, on va arrêter là. Merci beaucoup.
Liberté de tester hors enfant. Des donations.